Bonjour, alors tout d'abord je voudrais m'excuser sur la manière que j'ai de par... Bonjour, alors tout d'abord je voudrais m'excuser sur la manière que j'ai de participer à ce colloque, c'est-à-dire il y a eu des événements vraiment très importants qui ont fait que je n'ai pas pu être là hier, le décès de notre collègue Kuzenberch, dont il fallait qu'on s'occupe à l'université, et d'autres événements cet après-midi. Alors j'ai quand même écouté donc ce qui s'est dit en fin de matinée hier et tout l'après-midi, et je crois que je commencerai par parler du problème général donc, que j'ai ressenti, évoqué à des manières, une manière un peu nouvelle, mais des problèmes qu'on se pose depuis très longtemps, c'est-à-dire coder, analyser, interpréter. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde des listes de formes? Comment on peut se permettre d'interpréter? Quel est le saut interprétatif nécessaire? Alors, je prendrai ensuite un exemple de corpus très particulier qui s'appelle les séries textuelles chronologiques, avec un exemple que certains d'entre vous dans cette salle connaissent un peu parce que je le trimballe depuis pas mal de temps. Mais depuis ces travaux, il y a une cinquantaine de corpus qui sont constitués par des corpus qui s'étalent dans le temps assez précisément avec une source homogène. Et à la fin, je montrerai un logiciel de navigation textuelle, Lexico 3, que nous développons en ce moment dans notre équipe SILED de l'Université Paris 3. Donc le schéma général de l'analyse, je tenais à le souligner, hein, c'est bien qu'on part d'un corpus. En fait, quand on a un corpus, il y a déjà une phase de la recherche qui est déjà très sérieusement avancée, c'est-à-dire qu'on a réussi à réunir des textes au nom d'une idée de recherche et on a décidé de les soumettre à des analyses. Hein, mais je prends ce moment de recherche qui, bien sûr, est précédé de toute une série d'étapes d'élaboration d'une problématique, d'un objet de recherche. Et alors, sur la base de ce corpus, en général, dans notre cas des textes, on opère un codage qui en fait un corpus codé qui va être utilisable, qui va permettre des réorganisations textuelles, par exemple les concordances. Hein, par exemple, des concordances, des analyses statistiques, tout ça vous connaissez, je vais assez vite, et qui va produire des résultats. Alors les résultats, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les transparents, et j'en produirai aussi, qui sont des résultats issus de manipulations directes de données codées, c'est-à-dire soit des réorganisations de type concordance, c'est-à-dire le texte est simplement réorganisé dans sa présentation, et parfois c'est très suggestif, bien entendu, c'est fait pour ça. Des analyses statistiques qui peuvent être encore plus suggestives, et puis d'autres types d'analyses, mais réalisées entièrement automatiquement, quoi, des analyses automatisées. Et donc tout ça produit un résultat, mais qui en général n'est pas directement exploitable, parce que si c'était comme ça, ça serait formidable. Alors il faut une interprétation qui va produire des commentaires. Et les commentaires souvent tombent sous le sens, bien entendu, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur tel graphique, il y a un groupe de formes ou de textes qui ressemblent quand même pas mal, qu'on a envie d'interpréter comme. Mais tout ça, c'est une interprétation. Hein, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que, y a un saut interprétatif qui est absolument indispensable. Je le dis peut-être avec conviction parce que moi-même, j'ai été stérilisé un petit peu par des études scientifiques quand j'étais jeune et j'avais beaucoup de mépris pour tout ce qui n'était pas directement formalisable et totalement formalisable et totalement interprétable. Ben, en vieillissant, je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait comme ça et qu'il y a des sauts interprétatifs qui sont bien sûr évidents, qui sont faciles et les méthodes statistiques sont faites pour ça, c'est-à-dire pour produire des images suggestives, mais dans tous les cas, il s'agit d'une interprétation. Comme vous savez toutes ces choses-là aussi bien que moi, je passe donc au transparent suivant. Alors, je voulais au passage égratigner un peu une partie un peu discutable d'un logiciel par ailleurs extraordinaire, mais que je prends comme représentatif de ces attitudes vis-à-vis du texte. Je parle de Cordial. Alors, je lui ai soumis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et j'ai ici ce qu'il produit comme analyse sémantique. Alors, vous voyez, c'est quand même, on peut méditer un moment sur ces résultats d'un logiciel par ailleurs assez extraordinaire en tant que correcteur orthographique, on ne le répétera jamais assez. Alors vous voyez ce texte assez court, ce qui rend délicate une analyse de contenu, ça ne mange pas de pain. Le domaine de l'anatomie donc est le plus saillant du texte. On comprend pourquoi, parce que dans les droits de l'homme, on parle beaucoup de l'homme. L'homme étant un animal, dans des ontologies, c'est pris dans des ontologies qu'on ne contrôle plus, et on arrive donc à expliquer qu'il y a quand même l'administration qui émerge un peu, la géométrie, parce qu'il y a nul, des choses comme ça. Enfin, après, on est réduit à un jeu. Vous voyez, je me suis amusé avec la Déclaration des droits de l'homme à dire qu'est-ce qu'il faut enlever pour qu'il ne parle plus de géométrie. Alors, on y arrive, on y arrive. Mais dans la thématique de ce texte, la collectivité, par opposition à l'univers et à l'humain, occupe une place capitale. Cette phrase apparaît à peu près à propos de tout texte que j'ai pu analyser, très difficile de la faire disparaître, c'est-à-dire de massacrer la Déclaration des droits de l'homme pour essayer que ce diagnostic n'apparaisse plus. Alors on y rajoute, je ne sais pas moi, du corbeau et du renard, des choses comme ça, et on obtient toujours ce genre de diagnostic, quoi. Le corbeau et le renard, je me suis permis. Il faut prendre des textes canoniques que tout le monde connaît, hein. Des textes que je ne m'appesantirai pas là-dessus. Et donc là, il s'agit vraiment d'une tentative de passage d'un texte à une interprétation déjà faite, qui plus est rédigée par un logiciel. Et bon, je pense que là, on frise quand même l'escroquerie en ce moment. Parce que ça donne une impression d'analyser, mais ça repose sur des mécanismes qui ne sont pas explicites, et qui souvent sont beaucoup plus pauvres que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, une prédominance donc du droit et de la volonté, pourquoi pas. Mais il faut avoir une batterie de. On fait ça avec des étudiants, donc une batterie de textes canoniques, hein, je vous dis les prières rituelles, les textes politiques, tu voulais dire moi? Oui, je me suis permis d'insister un peu là-dessus parce que je pense que l'attente des gens qui sont des demandeurs d'analyse textuelle et comme ça tourne quand même autour de ça. C'est-à-dire, ce qu'ils voudraient avoir, c'est une analyse rédigée, produite par la machine. Alors, je me suis permis 5 minutes pour dire que c'est du domaine de l'impossible, c'est absolument pas possible, hein. Alors, donc, la série textuelle chronologique, c'est une réduction de l'étape lexicométrique, très très réduite, donc cette fois-ci, une réduction qui. Va considérer un corpus qui est fait de parties. Vous voyez, par exemple, je prendrai des enclos, des parties. Chaque mois, un parti politique donne un communiqué. Chaque année, une organisation syndicale produit un texte un peu canonique. Et quand on analyse donc ce genre de corpus, on a une formidable réduction de toute une série de parasites. D'abord, c'est à peu près. On peut supposer que c'est le même émetteur, la même source textuelle, encore que les gens peuvent changer. C'est des textes qui sont à peu près comparables en volume, comparables dans le temps, et ça permet de poser au corpus des questions très très précises. Qu'est-ce qui évolue dans le temps? Comment les choses évoluent dans le temps? À quel moment le vocabulaire change, etc. C'est une réduction de problématiques qui se centre sur un objet très précis. Alors, les méthodes qu'on a là-dedans, vous connaissez. Il y a la classification automatique, mais on en a parlé, je vais aller vite. L'analyse factorielle, qui permet de faire des typologies. Et pour revenir aux questions de style dont on parlait hier, avec le corpus dont je vais vous parler tout de suite, là, le Père Duchêne, on a la surprise suivante, c'est qu'on s'aperçoit que tout dépend de la partition du corpus qu'on fait. Alors, ce corpus s'étale sur 8 mois, c'est 96 livraisons, d'un journal, 96 livraisons d'un même journal. Et là, on s'aperçoit que si on s'occupe d'analyser les livraisons entre elles, c'est-à-dire les 96 journaux, on va avoir comme ça un graphique en analyse factorielle qui va nous séparer des choses qui sont écrites en discours direct, des choses qui relèvent plutôt de la rhétorique du sermon, d'autres journaux qui relèvent de la rhétorique, qui relèvent de la polémique, on dit à l'époque qu'il écrit, il joue à la parade, c'est-à-dire à ce moment-là, les comédiens se mettent souvent, donnent des petits extraits de scénettes et disent, venez voir comment la louve autrichienne, par exemple, bouffe ses enfants, comme ça. Alors on joue un petit morceau de scène avec beaucoup de dialogue, de farce, et le père Duchesne, dont je vais parler tout à l'heure, Jacques-René Hébert en l'occurrence, donc rédige de temps à autre comme ça. Et puis de temps à autre, c'est désenvolé du type sermon. Il a été formé chez les jésuites, comme tout le monde, et il a gardé des souvenirs de rédaction. C'est un très grand écrivain, Jacques-René Hébert, que beaucoup ont rapproché de Sade, et qui, sous des formes assez plaisantes, et pas toujours sympathiques d'ailleurs, dit des choses, finalement, aborde des thèmes assez profonds. Mais pour le coup, je n'aurai pas du tout l'occasion de vous parler de ça. Alors donc, des séries de textes étalés dans le temps, une source textuelle homogène, une partition calibrée au plan lexicométrique. Si on s'occupe de faire des typologies sur ces 96 parties, on va obtenir des oppositions stylistiques, je viens d'en parler. Si par contre on rassemble ces parties en 8 mois, on va voir les parties, ici je les ai symbolisées donc, pour tout corpus chronologique, elles s'alignent le long d'une parabole, comme ça. Ce n'est pas là c'est un diagramme théorique, hein, je veux dire, ce n'est pas ce qui sort de l'analyse. Elles s'alignent le long d'une parabole, ce qui peut être mis au compte du fait que le vocabulaire évolue dans le temps. C'est-à-dire que ce vocabulaire change. D'abord, il y a le vocabulaire événementiel, ça, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire, dans les journaux, il y a une semaine où on parle de l'arrestation d'un pédophile en Thaïlande, et puis la semaine d'après, on parlera de la cassette de Strauss-Kahn, etc., etc. Des tas d'événements qui marquent la semaine, dont les gens parlent un peu, et puis qu'on oublie. Mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le changement de fond du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont très employés dans le corpus, qui apparaissent, qui augmentent, qui disparaissent. Et c'est ça qui fait l'objet des questions qu'on peut poser à un corpus chronologique. Donc les questions, c'est quelles sont les formes qui sont à la base de l'évolution, quelles sont celles qui apparaissent lors de chaque période, peut-on mettre en évidence certains segments de texte particulièrement caractéristiques de l'évolution lexicale du corpus. Voilà, donc le corpus que je vais vous présenter sur des transparents, c'est celui-ci. Donc les dates de Jacques-René Hébert et... c'est un média de très grande diffusion, le père Duchesne, parce qu'il va être reproduit aux armées. À l'époque, si on pense, je crois, de l'ordre de 60 000 exemplaires vont être diffusés aux armées. Et si on pense que chaque journal est lu par une trentaine de personnes, c'est les guignols de l'info avant l'heure, quoi. C'est-à-dire que c'est un média qui a touché énormément de gens. Alors, on peut donc structurer l'analyse du corpus en mois, c'est-à-dire considérer que c'est 8 mois. On peut considérer que c'est 16 quinzaines. 32 semaines ou 96 numéros. Encore une fois, je l'ai dit, les résultats ne seront pas du même ordre. L'analyse en numéros parlera de stylistique, l'analyse en mois et en quinzaine parlera d'évolution, des tendances lourdes de l'évolution du vocabulaire. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, ça c'est le schéma qu'on obtient donc, quand on fait l'analyse des 8 périodes du père Duchesne dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'en bleu, j'ai montré une courbe théorique comme ça qui n'est pas réalisée, puisqu'il y a des accidents par rapport à cette courbe. Quand on obtient sur les 8 mois du père Duchesne une courbe de ce genre, on va se dire deux choses. La première, c'est que, grosso modo, les formes évoluent dans le temps. La deuxième, c'est qu'il y a une période qui n'est pas à sa place. Hein, cette période n'est pas à sa place et ça va commencer à nous poser des questions. On va essayer de voir pourquoi l'évolution du vocabulaire se fait mal à ce moment-là. Quel est l'accident qui arrive? Alors, le premier accident, on va penser d'abord que c'est que la période M7, manifeste une opposition radicale avec tout le reste. En fait, on s'apercevra qu'il y a une évolution constante dans ce vocabulaire et que la période M7 est en rupture avec cette évolution parce qu'elle ne continue pas l'évolution. C'est un repli. Au plan politique, dans un petit exposé comme ça, je le dis assez rapidement, mais là c'est une interprétation, on est d'accord. Il se trouve que le Père Duchesne donc, a un succès de plus en plus grand dans sa diffusion et qu'il, de plus en plus, il désigne des ennemis aux montagnards du comité de salut public. Il va aller, il va commencer à s'opposer à eux dans la période M5-M6, puis il va recevoir des attaques qui viendront d'abord du vieux Cordelier de Camille Desmoulins. Il va essayer de reprendre les thèmes qui ont fait sa gloire au début et de ramollir un peu ses critiques. Puis, devant l'échec de ses tentatives, il va reprendre ses critiques aux montagnards du comité de salut public et il terminera le huitième mois, miracle de la démocratie. Ses journaux seront édités depuis sa prison et il sera guillotiné donc en 1994. C'est des histoires dramatiques sur lesquelles je n'ai pas vraiment le temps de m'apesantir parce que ce n'est pas tout à fait le but de ma présentation. Donc alors, après quelques... Je voudrais peut-être vous montrer maintenant comment, du point de vue logiciel, on gère ces choses-là. Alors, donc c'est un logiciel que nous avons... Pardon. C'est un logiciel que nous avons donc, il n'est pas tout à fait terminé, il est le successeur d'un logiciel qu'on avait fait à l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud qui s'appelait Lexico 1, puis Lexico 2, ce Lexico 3 est développé à l'Université Paris 3. Donc voilà, je vais d'abord charger un texte, je prends Duchesne.txt que j'aurais peut-être dû montrer, pardon, le texte, je vais peut-être vous montrer d'abord le texte, pour le texte se présente sous cette forme. Donc, vous voyez, c'est un texte avec des balises qui disent « Ici commence le mois numéro 1 ». Ça se voit, oui. Ici commence le mois numéro 1. C'est la première quinzaine, la semaine temps. Ça se passe en telle année. Tout ça, c'est des codages qu'on avait préconisés à Saint-Cloud il y a maintenant de nombreuses années. Je vois des gens dans la salle qui étaient de cette époque-là. Et puis, le texte, donc, avec des paragraphes. Alors, on va donc segmenter ce texte, qui fait donc environ 140 000 occurrences, hein, 140 000 mots graphiques différents. Alors, il va nous demander quels sont les délimiteurs de séquences, de formes, pardon, et on va lui dire, voilà, ces mots-là ne font pas partie. Et donc, il construit une base de données qu'on va pouvoir étudier. Alors ici, je vais d'abord choisir une partition. Cette partition, par exemple moi, va me donner un espace pour faire des graphiques. Et si je prends un mot et que je le tire sur ce graphique, j'ai la fréquence relative de ce mot dans les graphiques, d'accord? Bon, je peux prendre des mots, le mot république par exemple, etc., et en faire des graphiques. Je vais vite sur cette partie parce que tous les logiciels que nous faisons ensemble, tout, font à peu près ce genre de choses. Ici, il y a un espace qui permet de créer des concordances. Alors, ces choses-là sont faites sur la base d'une représentation numérique en mémoire, donc il n'y a rien de pré-fabriqué. Hein. Alors, ces objets circulent bien entre eux, c'est-à-dire que si on prend un mot, par exemple liberté, on peut en avoir immédiatement, on peut en avoir la concordance, on peut aussi faire circuler un mot, par exemple, pour aller l'envoyer sur le graphique. Ça c'est l'utilisation normale des concordances, et surtout on peut aussi trier par exemple ces concordances selon par exemple une partition donnée, ici le mois par exemple, d'accord, ça c'est la partie indispensable de tout logiciel d'analyse lexicométrique, hein. Alors on va aussi donc vers une autre partie qui est classique, c'est les analyses multidimensionnelles. Alors par exemple ici je vais, vous voyez le corpus qu'on a obtenu donc en 8 mois, celui dont je parlais tout à l'heure. Je vais en faire l'analyse factorielle des correspondances. Et il va me donner donc une typologie, ce qu'on reconnaît à peu près. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'évolution dont je parlais tout à l'heure. Alors, à partir de ce moment-là, comment on va retourner vers le texte? C'est ça le problème. C'est comment on va retourner vers le textuel. Alors ici, on va utiliser la couleur. Vous voyez, il y a un pinceau ici que je vais colorier en jaune et je vais dire, je fais ici les je vais essayer de m'intéresser à ce groupe-là qui est ici, et essayer de demander quelles sont ces spécificités, par exemple. C'est-à-dire quels sont les mots qui sont particulièrement caractéristiques de ce groupe. Donc je dis spécificité, et il me crée ici une partie. Il ne faut pas avoir peur dans les démonstrations comme ça. Donc ça, c'est un gag classique. J'ai choisi la couleur blanche au départ. Alors je prends un pinceau, je vais prendre une autre couleur, la couleur bleue, pour ce groupe. Je vais le sélectionner. Et je vais en prendre les spécificités, comme ça on va le voir mieux. Alors voilà, ça c'est, vous voyez, il y a un carré bleu qui nous dit que ces formes-là seront représentées en bleu. Que... À partir de là, la question, c'est que, bon, je sais qu'il y a des formes spécifiques de cette partie-là. Vous voyez, c'est patriote, conspirateur, philippotin. Alors, la liste de formes, c'est un peu pénible, parce que souvent, c'est là que dérape l'interprétation. C'est-à-dire qu'on sait que ces formes sont très représentées dans cette partie, et qu'est-ce qu'on va en conclure? Alors, je pourrais faire de l'interprétation, comme ça, c'est un corpus que je connais depuis longtemps, et de dire, il y a des traîtres, il y a des conspirateurs, des assassins et tout. C'est une montée du vocabulaire offensif. Alors, je pourrais aussi... aller par exemple sur le graphique et regarder comment ces formes-là, je prends ces formes-là qui sont les plus caractéristiques de la partie 6, et sans surprise, si je les mets sur un graphique, si elles veulent bien se mettre sur le graphique sur lequel je les mets, pardon, elles sont en blanc encore une fois. Bon. Si je les mets sur un graphique, voilà, je vais voir sans surprise que ces formes-là sont très fréquentes dans la partie 6. Le problème, c'est de savoir pourquoi elles sont très fréquentes dans cette partie et qu'est-ce qu'on peut en dire et à quels endroits du texte. Alors, c'est là qu'intervient un nouvel objet. C'est la seule chose un petit peu nouvelle, peut-être, que depuis le début de mon exposé. C'est ce que j'appelle une carte des paragraphes. Alors, vous voyez ici, chaque petit carré représente un paragraphe du texte. D'accord? Alors, ces paragraphes, on peut y voir plus clair en les mettant dans les mois différemment. Il y a 8 mois, j'ai dit, dans le corpus... Chaque petit carré représente un paragraphe. Alors un paragraphe, c'est quelque chose qui signifie qu'à un moment donné, l'auteur, celui qui écrivait, ou alors quelqu'un qui mettait le texte en forme, dans le mauvais cas, a éprouvé le besoin d'aller à la ligne, signifiant par là que c'était autre chose, c'était une autre idée, c'était pas tout à fait l'idée qui était développée dans le paragraphe d'avant. Alors on peut utiliser le paragraphe, ou les phrases, ou tout autre signe de découpage ou des balises, pour essayer de voir, par exemple... quels sont les paragraphes dans lesquels les formes qu'on vient d'isoler par l'analyse factorielle sont représentées, sont bien représentées. Alors ici, il y a une représentation qui est faite par seuil, c'est-à-dire la présence simple dans le haut. On voit mon pointeur, oui. La présence simple dans le haut, comme ça, est notée en bleu clair, très clair. Le fait que la forme est présente avec un seuil de spécificité, un exposant qui est du niveau... 1/100, c'est-à-dire 10 puissance 2 est codé en bleu moins clair, et en bleu foncé, la spécificité est très forte. D'accord? Alors, ici, on voit sur le graphique que, bien sûr, ces formes-là, dont on a vu qu'on les a sélectionnées par le fait qu'elles étaient très présentes dans la partie 6, et que ça correspondait, on a dit, à une montée du vocabulaire offensif. Mais quand on regarde la carte des paragraphes ici, je peux peut-être le faire un petit peu plus grand. Tout le monde voit, non? Alors, quand on regarde la carte des paragraphes, on peut voir que, par exemple, ces formes-là sont particulièrement présentes, par exemple, dans une séquence ici, et on va aller y voir. Donc, en cliquant sur ce point-là, on va directement au texte, et les formes en question sont notées en bleu. Alors, vous voyez, c'est ainsi, foutre que les aristocrates et les conspirateurs mitonnent leur complot dans l'ombre et disposent les esprits au coup de chien, etc., qui nous préparent, d'accord? Alors des paragraphes comme ça, on en a plusieurs, hein, qui vont, où on voit apparaître en bas les formes qui sont particulièrement responsables. Alors je pense que c'est un progrès par rapport à l'interprétation de Liszt, parce que pour le coup, on peut mettre son nez sur les endroits du texte où ça va être plus intéressant. Alors une autre application, par exemple, de ce genre de procédure serait que, admettons qu'on ait tous les discours d'un Premier ministre ou d'un Président de la République, on a tous ces discours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un discours, On va par ces méthodes-là regarder en gros quels sont les mots qui sont bien sûr qui sont en hausse ou en baisse dans son discours, quels sont ceux qu'il a particulièrement utilisés, mais on peut aller immédiatement aussi au paragraphe où ces mots sont particulièrement utilisés. Essayer de voir, ça peut être des techniques qu'on peut utiliser dans le résumé ou dans le résumé journalistique, j'entends, c'est-à-dire essayer d'aller au plus vite et au plus précis au texte. On dira, eh ben, dans ce discours d'aujourd'hui, voilà, dans tel paragraphe et tel paragraphe, il y a toute une série de mots nouveaux. Et bien sûr, ça devient intéressant s'il y a corrélation de tas de choses. Ici, par exemple, on a corrélation donc, de toute une série dans le comportement, corrélation de la fréquence de toute une série de mots qui sont aristocrates, donc traîtres, conspirateurs, divisés, patriotes, etc. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce vocabulaire est un vocabulaire offensif. Alors dans chaque cas, ça va être différent. Il y a des mots dont la signification est claire, hein, traître, conspirateur, assassin, tout ça, on comprend. Le mot meilleur, que vient-il y faire? Eh bien, il vient parce que, dans un premier temps, il y avait des patriotes et des républicains, et au moment où la polémique se déclenche, il y a des meilleurs patriotes et des meilleurs républicains, ce qui sous-entend qu'il y en a aussi des moins bons et des... Alors, tous les adjectifs ne fonctionnent pas comme ça. Par exemple, brave ne s'oppose à rien. Quand on dit un brave sans culotte, ça ne s'oppose pas à qu'un sans culotte qui ne serait pas brave. Mais quand on dit un meilleur patriote, on voit bien que ça s'oppose, et y compris dans le texte, à des faux patriotes, à des faux républicains. Et que cette notion patriote-aristocrate, qui va au début être l'objet d'une polémique, 1 000 millions d'aristocrates patriotes, 1 000 millions de patriotes aristocrates, dit un journal royaliste qui essaie de brouiller l'efficace de ces mots. Alors, ces mots-là donc, vont être utilisés dans la polémique un certain temps, jusqu'à un moment précis où les montagnards du comité de salut public s'emparent du pouvoir, exécutent les députés girondins. Je parle sous le contrôle des historiens qui sont dans la salle, mais je crois que c'est à peu près ça qui s'est passé. Et alors, à ce moment-là, les gens vont... ceux qui ont gagné vont retrouver l'usage du mot patriote avec l'idée que c'est maintenant eux qui définissent le contenu de ce terme. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de mots comme ça qui vont nous intéresser. En particulier, ici, j'avais trouvé, par exemple, l'apparence d'un mot qui était modéré, qui apparaissait assez régulièrement dans ces mots-là. Alors, on dit modéré, tiens, ce n'est pas une insulte, a priori, aucun dictionnaire, aucune classification ne donnerait le sens modéré comme un mot insultant. Et on s'aperçoit que modéré, c'était le nom donc, qui désignait les Girondins qui venaient d'être exécutés, et que dire dans ce texte une nouvelle clique de modéré, ici le mot modéré en corpus, est chargé d'un sens particulièrement polémique et particulièrement dangereux pour ceux à qui il s'applique. Alors vous voyez, ça donne une nouvelle entrée, je crois, qui intéressera les gens qui s'occupent de sémantique textuelle, une nouvelle entrée statistique dans ce genre de texte. Que vous dire d'autre? Alors bien sûr, il y a des fonctionnalités qu'on développera aussi, c'est-à-dire que bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'avoir des listes de formes et de retourner au texte. On a aussi la possibilité donc d'affiner des analyses factorielles de ce type, c'est-à-dire d'enlever des éléments, d'en rajouter et d'essayer chaque fois d'accumuler sur le texte, chose qu'on n'a pas encore faite tout à fait, d'accumuler par la mise en couleur, la mise en italique, la mise en gras, d'accumuler des renseignements et des pointeurs sur ce texte. Vous voulez qu'on parle de la discussion ou pas? Il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire, non?
J'ai encore du temps. Bon, je ne sais pas si on a un micro.
Avoir un bouton. Tout le matériel qui est ici marche très bien, monsieur.
Denise Malrieux souhaitait prendre la parole. Voilà. Merci.
Oui, moi je me pose la question de savoir, en fait, pourquoi vous vous privez des outils qui seraient quand même.
Oui, ça marche.
Ça marche?
Voilà.
Oui, dans la mesure où quand même le travail sur les formes pose beaucoup de problèmes concernant les ambiguïtés
concernant
les ambiguïtés hein, entre catégories. Pourquoi vous vous privez de l'utilisation des outils qui existent déjà sur le marché et qui permettraient de travailler non pas sur des formes, mais sur des mots, et non seulement sur des mots, mais sur des mots, des expressions composées, et sur... l'allusion que vous faisiez tout à l'heure... au terme modéré, est-ce qu'il s'agit d'un substantif ou d'un adjectif? Ces choses-là sont tout à fait utiles, à mon avis, pour aider à l'interprétation. Et le couplage de votre outil avec une analyse préalable en catégorie me paraîtrait tout à fait pertinente pour arriver à une interprétation plus aisée.
J'ai pas subventionné votre question, ça me donne justement l'occasion de passer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête pour vous répondre. Certaines très gentilles, c'est en partie fait ce que vous dites, bien entendu. Hein. On a possibilité de traiter des étiquettes, des segments répétés, je vais vous le montrer tout de suite pour vous le prouver, c'est-à-dire de faire la suite de toutes les séquences qui apparaissent, les séquences de formes. J'ai lancé le calcul, c'est un corpus de 140 000 occurrences. La jauge ici montre que je suis en train de calculer toutes les séquences de formes qui apparaissent donc dans ces 140 000 occurrences. Toutes les suites de formes qui sont répétées, hein, ce qui est une des entrées dans la phraséologie. Il y en a d'autres. Alors voilà, la jauge donc étant terminée, ces choses-là s'affichent. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce sont des séquences. Et si je veux, par exemple, regarder quelque chose comme... je les mets sur le graphique, par exemple. Une séquence, j'essaie d'en prendre une plus intéressante. De la tête aux pieds, 12 fois. On peut effacer pour le... un tout. Voilà, de la tête aux pieds, 12 fois. Je peux avoir aussi la répartition de toutes ces séquences-là. Alors, pour ce qui concerne les catégories... on est aussi en train d'utiliser ces étiquettes, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire non seulement des calculs sur les catégories, mais aussi des segments sur les catégories. Il y a des segments sur les lemmes et tout ça, il est possible de les intégrer. Mais si vous me permettez, au-delà de ces choses, d'ailleurs, donc la première réponse, c'est bien entendu, ça c'est possible et c'est fait. Mais souvent ces questions-là relèvent quand même, il y a une petite part d'incompréhension profonde de ce que c'est que la répartition statistique du vocabulaire. Alors je pense que dans le monde des littéraires, souvent, ça apparaît comme totalement scandaleux, par exemple, de mélanger le fait que les poules couvent et des couvents et des histoires comme ça qui durent depuis 40 ans. Hein, je veux dire, ces exemples-là durent depuis 40 ans et on comprend que ça froisse un peu. Mais il faut comprendre que la différence statistique qu'on observe dans un texte, c'est pas de cet ordre-là, hein, c'est d'un tout autre ordre. C'est-à-dire que si des textes évoluent dans le temps, il y a une première donnée brutale, statistique, c'est qu'après concassage des occurrences, après massacre du texte en occurrences isolées de leur contexte, etc., on arrive à retrouver quand même une évolution dans le temps. Alors le problème, c'est dans quel langage va-t-on décrire cette évolution? Alors les formes graphiques sont un bon langage, sont un langage intéressant. Les lemmes pourraient être un bon langage aussi. Toutes les expériences qu'on a faites, je parle sous le contrôle d'Étienne qui connaît ce problème depuis longtemps, toutes les expériences qu'on a faites montrent que, en fait, pour la typologie, par exemple, pour la typologie des textes et pour étudier leur évolution dans le temps, le langage sur lequel on s'appuie et les tableaux sur lesquels on s'appuie donnent des résultats strictement équivalents. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, bien sûr, si on a des informations sur les lemmes ou sur les catégories, c'est une information qui est plus riche que l'information en forme graphique. Mais par ailleurs, le fait de prendre des lemmes et de s'asseoir, par exemple, sur des distinctions de pluriel et de singulier est une catastrophe souvent pour le texte. Alors je prends quelques exemples historiques et canoniques qui sont aussi vieux que les aspects polémiques, les exemples polémiques, les couvents couvent et nous avions des avions ou des choses comme ça. C'est que, par exemple, on peut dire, pour être un peu provocant, on est là pour ça, on peut dire que les grandes bagarres par exemple politique par exemple en France se sont à peu près toujours déroulées autour des oppositions entre pluriel et singulier, par exemple de liberté, la liberté pour la droite, les libertés pour la gauche, de classe, par exemple la classe ouvrière disaient les syndicats, les classes ouvrières, disait la bourgeoisie Louis-Philippe Hard. Alors, si on commence par massacrer le texte, c'est-à-dire en supprimant l'opposition plurielle singulière sous prétexte qu'il y a des dictionnaires dans lesquels... Je repasse tout de suite la parole. Si on commence par massacrer le texte, ce qu'on a fait pendant un certain temps en disant on s'assoit sur le pluriel et le singulier, on regarde ce qui se passe. Alors, je vous rassure tout de suite, d'abord, pour les grandes oppositions typologiques et tout, ça ne changera absolument rien. Mais on perd cette information. Donc l'armistice qu'on a passé avec, c'est des bagarres, hein, je veux dire, dans lesquelles vous arrivez, où on a laissé vraiment des cadavres sur le parcours assez long et qui ont duré une trentaine d'années, et une espèce d'armistice qui commence à se mettre en place, qui dit que si on a des données comme ça, alors il faut les utiliser pour illustrer encore plus, comprendre encore plus les textes, il faut absolument les utiliser. Mais l'argument que travailler sur des formes graphiques, c'est ne pas prendre en compte la dimension textuelle et tout, ça franchement, j'y crois absolument pas. Hein, donc, il s'agit de construire là, c'est-à-dire d'essayer d'organiser la description avec des choses de plus en plus riches. Et ça, bien sûr, c'est utile. Je m'excuse peut-être si j'étais un peu véhément, mais vous savez, c'est un très vieux débat. Hein.
Oui, c'est un très vieux débat, mais je ne pense pas que lorsqu'on schématise, on supprime de l'information, on la conserve.
Ah, bien entendu. Hein,
de toute façon, dans un analyseur, il vous conserve l'intégralité de toute l'information, vous en disposez comme vous voulez.
Donc, vous ne remplacez pas par des lemmes. Vous dites que vous projetez l'information du LEM en plus dans votre analyse, d'accord ?
Bien sûr.
Mais non, pendant très longtemps...
De toute façon, on a les outils pour ça, donc ce n'est plus le problème.
Non,
plus le problème actuellement.
Oui, le clan des lématiseurs, pendant très longtemps, remplaçait les formes graphiques par des LEM.
Oui, mais ce n'est plus maintenant...
On est d'accord.
D'accord. Bon, puis d'autre part, je pense que tout dépend de la problématique dans laquelle on est. En fait, vous êtes dans une problématique d'évolution du vocabulaire. Moi, je me situerais peut-être plus dans la problématique du fonctionnement textuel. Et je crois que les optiques font qu'on est plus sensible à certains aspects que d'autres, c'est possible.
Il y a des questions de point de vue, mais encore une fois, si vous voulez, par exemple, l'opposition plurielle singulier, sur lequel pendant longtemps, bon, les gens n'ont pas voulu voir, hein, tous les travaux dans le domaine qui ont 30-40 ans, il s'agissait à l'époque de remplacer le texte cru par du texte où les formes avaient été lématisées. Bon, c'est une mutilation absolument effrayante dans le cadre du texte politique, clair. Hein, c'est une mutilation du texte total. Oui. Donc on arrive à trouver une paix armée là en ce moment, et je pense que bon, l'histoire a tranché ses débats. Quoi, que plus on a d'informations, mieux on l'organise, plus la description est intéressante. Hein, je crois. Hein. Mais bien, Étienne.
Oui.
Pardon.
À la fois faire des analyses sur les formes et parallèlement, symétriquement sur l'EM et sur les codes. Et j'ai vu ça fonctionne.
Oui, oui.
Bah, tu as omis de le dire.
Oui,
je pourrais presque le montrer. Donc, en réalité, on arrive non pas à une paix armée, mais à une paix tout court. C'est que le mieux, c'est de proposer tout à la fois. Tout à la fois, les codes... grammaticaux ou peut-être un jour sémantiques, les formes graphiques et les lemmes, mais tout cela coordonné, tout cela de façon homothétique.
Je pense par exemple aux bonnes études publiées, l'étude de Dominique Labbé, pour ne pas la nommer, qui est un copain à nous de longue date. On dit par exemple, il donne des. Sur Mitterrand, il rassemble des verbes, par exemple, c'est très intéressant. Il dit quand on fait la somme de je pense, je crois, j'estime, etc., tout ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut rassembler. C'est des verbes qui sont une certaine manière de se positionner par rapport à son discours. Et ça, c'est vrai, c'est très intéressant. Maintenant, le fait de dire que l'efflexion verbale éparpille les occurrences, c'est pas vrai, par exemple, quand on prend des formes comme. Dans le discours politique, j'entends, il faut que, il faudrait que, il faudra que, il fallait que, si on remplace tout par il falloir que, c'est un massacre du texte. Et si vous voulez, dans le domaine des études publiées, j'ai l'air naïf comme ça et tout, mais je parle le corpus des études publiées, hein, qui sont quand même une référence dans le domaine. Que maintenant tout le monde ait les idées à l'endroit, c'est bien, mais pour le moment, dans le corpus des études publiées, pendant très longtemps, sous la férule des linguistes et des gens qui savaient, et des gens qui faisaient les dictionnaires, on a fait des choses comme ça. Et ben, c'est bien, on en est sorti. Parce que dans le domaine politique, c'est parfois les choses les plus intéressantes. Vous voyez, c'est des oppositions qui sont les plus intéressantes. C'est peut-être une question d'objet d'étude et de perspective d'étude.
Pendant que je m'écoute, j'ai une petite question à poser, mais elle est plus technique. Et justement, elle s'appuie sur ce qu'on voit au tableau. Il y a un graphique qui est fait sur les occurrences brutes. Est-ce que tu ne penserais pas qu'on pourrait faire des graphiques sur des fréquences pondérées avec l'hypergéométrique, par exemple,
des fréquences
dessous?
relatives, oui, tout ça, c'est
Oui.
bien sûr.
Et effectivement, les analyses factorielles que tu montres aussi, on ne voit que les variables, que les colonnes. Est-ce que
Oui, tout ça,
on peut
bien.
aussi voir les
Bien
individus?
sûr.
Bien sûr.
Mais l'idée, c'est de. Bon, vous voyez, ce logiciel est organisé comme un atelier, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas tellement d'imposer aux gens la manière de faire, mais d'essayer de leur donner une liberté de faire circuler entre des objets, ça s'appelle des objets en programmation, hein, entre des objets, par exemple, comme les concordances. Bon, on peut, par exemple, essayer d'envoyer en concordance, d'envoyer un objet à la concordance, on lui envoie une entrée. Alors, quel est le type de cette entrée? Eh bien, il faut que ça puisse être soit une forme, soit un lemme, soit une forme graphique, soit un segment répété, soit n'importe quel autre. Et il faut que tout ça circule entre tous les graphiques, les concordances et les choses possibles. À partir de là, ça devient un atelier et chacun, selon son objet d'étude, bien sûr, fait des choses un petit peu différentes. C'est fait pour ça. Hein? Mais peut-être que je réagis par rapport à un état ancien de la situation. Vous m'excuserez avec les quelques cheveux là qui partent, de réagir par rapport à quand même une trentaine d'années où on a eu ces débats un peu forts, quoi.
Oui, je pense qu'il faudrait enterrer la hache de guerre. Et je crois que, si je peux me permettre, j'ai fait un article qui s'appelle Qui lématise, dilemme attise.
Et qui se trouve potentiellement sur la revue Lexicométrica dont je pourrais.
François Rastier, vous voulez prendre la parole? Michel Bernard.
Je voulais dire d'abord bravo à André Salem et à son équipe pour le logiciel qu'il nous a montré. J'utilisais déjà Lexico 2 qui était très bon programme et là on a une interface qui devient vraiment très intéressante. Alors, ce type de logiciel, comme celui que nous a montré Étienne Brunet hier, pose simplement trois types de problèmes que je pointe simplement. Je pense que la table ronde de cet après-midi pourra les aborder. Le premier, c'est celui de leur diffusion, parce que j'utilise ces logiciels comme chercheur, mais je suis aussi enseignant. Et dans les cours, les formations, les stages que nous organisons, la question est invariablement la même, c'est comment se procurer ces logiciels? Parce que